Alors je relis les versets d'introduction du psaume 105 et 106. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Et louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Eh bien, nous allons retrouver ce thème, la proclamation des bontés de l'Éternel, dans le psaume 107 que nous allons lire maintenant intégralement et commenter par la grâce de Dieu. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté des habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux et ils ne diminuent point leur bétail. Ils sont amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance. Ils versent le mépris sur les grands. Il les fait errer dans des déserts sans chemin, mais il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Amen. Un psaume assez long. Et J'avais commenté ce psaume pour l'émission de radio. Et bien sûr, je faisais la série des psaumes. Alors, j'ai remarqué que le psaume 106, qui précède donc ce psaume 107, a un rapport, en fait, avec le psaume 107, bien que le psaume 107 introduise une nouvelle section du livre des psaumes, c'est la cinquième section. Et pourtant, nous n'avons pas l'impression d'une rupture entre le psaume 106 et le psaume 107. Au contraire, il y a une parfaite continuité, puisque le psaume 107 apporte une réponse au problème posé par le cantique qui le précède, puisque la fin du psaume 106, c'est « Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. » Eh bien, le psaume 107 commence par « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident. » Rassemble-nous, l'Éternel nous a rassemblés de l'Orient et de l'Occident, de tous les pays. Et le terme « racheté de l'Éternel » dit tout de suite la grâce que le Seigneur nous a faite de s'approcher de nous. Et nous avons immédiatement l'assurance, avec ce terme « racheté », l'assurance de la proximité de Dieu envers nous, puisque le terme vient de Gaal, qui désigne le proche parent qui a le droit d'intervenir et de délivrer son parent de la peine dans laquelle il est tombé, la notion de rachat, de rédempteur, est là dans l'Écriture pour nous dire que celui qui est proche de nous a une possibilité, un droit de venir à notre secours, de nous délivrer de la situation dans laquelle nous sommes mis, ou peu importe les circonstances d'ailleurs, pourquoi nous nous retrouvons en difficulté, dans la peine, dans la dette, etc. Le Rédempteur, c'est celui qui vient et qui vient payer et délivre celui qui a une dette. Donc nous sommes tout de suite définis comme étant des rachetés de l'Éternel. Nous bénéficions de la rédemption. Le Seigneur est venu, il s'est rendu proche de nous, il nous rachète. L'unité des deux cantiques se traduit aussi par le fait qu'ils sont introduits par la même louange. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Mais là où le psaume 106 nous présentait la continuité du récit historique, en fait, le psaume 106, c'est toute l'histoire d'Israël qui se déroule. Tandis que le psaume 107 nous donne une suite de couplets entrecoupé de ce refrain que vous avez certainement perçu dans la lecture, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. À quatre reprises, versets 8, 15, 21 et 31. C'est que les expériences relatées sont toutes des expériences de détresse qui se terminent par une délivrance. Alors on peut vraiment rendre gloire à Dieu pour ses délivrances. Il est le Dieu des délivrances. À quatre reprises, il est dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Et c'est suite à cet appel que l'Éternel et à l'intervention de l'Éternel qu'ils sont appelés à le louer pour sa bonté. Et le genre de délivrance est alors spécifié. Au verset 7, il les conduisit par le droit chemin. Au verset 14, il les fit sortir des ténèbres. Au verset 20, il envoya sa parole et il les guérit. Au verset 29, il arrêta la tempête. Donc, il les conduisit par le droit chemin, il les fit sortir des ténèbres, il envoya sa parole et il les guérit, il arrêta la tempête. Dieu est là, présent, qui fait l'œuvre. Ce ne sont pas seulement des circonstances qui redeviennent favorables, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui intervient directement. Alors, les modes de délivrance du Seigneur sont divers, mais nous pouvons remarquer que les premiers, la première et quatrième délivrance font état d'un but à atteindre pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Parce qu'au début, la situation, c'est qu'ils erraient dans le désert sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils n'ont pas de lieu, en fait, pour habiter ensemble. Eh bien, l'intervention du Seigneur leur permet d'arriver dans une ville habitable. Ou aussi, au verset 30, il les conduisit au port désiré, alors qu'ils sont sur les flots agités. Par contre, les deuxième et troisième délivrances consistent plutôt à faire échapper à un funeste destin. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Verset 14. Il les fit échapper de la fosse. Verset 20. Donc le Seigneur agit de ces deux façons. Et nous avons un enseignement pour nous, puisque Dieu nous offre la délivrance à chacun d'entre nous, et elle consiste à la fois à nous faire échapper à notre terrible destinée d'homme pécheur, aveugle, mortel, et à nous conduire dans son royaume de paix et de plénitude. Le Seigneur fait les deux choses. Le péché des hommes est signifié spécialement au verset 11. Il s'était révoltés contre les paroles de Dieu, ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Et aussi au verset 17, les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Bien sûr que cela nous dit notre propre responsabilité dans nos situations de détresse. Les conclusions des deux premiers couplets reprennent les deux types de délivrance que Dieu a opérées, puisqu'il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée, verset 9, et il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Il a satisfait, il a délivré. Les conclusions des troisième et quatrième couplets demandent, elles, aux croyants de réagir en conséquence de ces délivrances, qu'ils offrent à des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ces œuvres avec des cris de joie, verset 22, qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens, verset 32. Nous sommes les témoins de la grâce de Dieu. Alors, le cinquième couplet du psaume est un peu différent des quatre premiers. Il établit une distinction entre ceux que Dieu maudit, versets 33, 34, 40, et ceux que Dieu bénit, versets 35, 38, 41. Cette malédiction ou bénédiction, puisque d'un côté le Seigneur change les fleuves en désert, la terre aride, les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé. Donc il maudit le pays. Et ensuite, c'est l'inverse. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau et il y établit ceux qui y sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Donc cette malédiction ou bénédiction dépend ce que Dieu trouve dans le cœur de chacun. La notion de les grands, hein, il verse le mépris sur les grands, on voit un peu plus loin. Par contre, il relève l'indigent. Ça correspond au cantique de Anne, au cantique de Marie. Le Seigneur abaisse ceux qui sont élevés, le Seigneur élève ceux qui sont abaissés. Donc la seule façon pour nous de bénéficier de la bénédiction de Dieu, c'est de se reconnaître, bien sûr, démunis. Alors nous serons relevés. Si nous continuons à nous fonder sur nous-mêmes, à chercher à nous glorifier de ce que nous sommes, le Seigneur va nous humilier. Tandis que si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous sommes dépendant de sa grâce, il nous fera grâce. La droiture du cœur sera manifestée en ce qu'ils attribueront à Dieu leur délivrance et qu'ils se réjouiront ouvertement avec tous les croyants. Alors, il est justement encore une fois question ici de la ville pour habiter, la ville habitable. Ils ont enfin trouvé la ville habitable. Et en fait, dans le livre aux Hébreux, le parcours de foi des croyants, des anciens croyants, il est dit qu'ils cherchaient eux aussi une ville. Ils marchaient avec l'intention d'arriver dans une ville, Abraham, Isaac, Jacob. Mais cette ville, ils se sont bien gardés de la construire eux-mêmes. La première grande ville que les hommes ont construite, elle leur a servi à quoi ? À se révolter contre Dieu. C'était Babel. Ils ont bâti, et non seulement bâti une ville, mais ils ont bâti une tour pour se donner un nom, pour arriver jusqu'à Dieu, en fait, aller à la situation, à l'état de divinité. Cette ville-là et cette ambition-là, le Seigneur l'a confondue. Et c'est à chaque fois le cas. Lorsque les hommes veulent s'unir indépendamment de Dieu et contre Dieu, Dieu met en échec leur projet. Ça va un certain temps, ça marche un certain temps, mais arrive un moment où Dieu, comme il est dit, l'Éternel descendit et il vit ce qu'il faisait. Et là, il intervient et il dispersa les humains sur la face de toute la terre à cause de leur orgueil, à cause de leur confusion spirituelle. Par contre, il est dit qu'à ceux qui lui plaisent, à ceux qui marchent dans la foi en lui, le Seigneur a préparé une cité. Nous marchons vers la cité céleste dont Dieu et l'architecte et le constructeur. C'est à cette ville-là que nous désirons arriver. Chacun de ceux qui expriment devant Dieu leur détresse de toutes les calamités dans lesquelles ils peuvent se trouver, mais qui saisissent les promesses de Dieu, sont en marche pour la cité céleste. Dans l'Évangile, il y a deux scènes qui reprennent presque intégralement le quatrième couplet du psaume 107. Je relis ce quatrième couplet. « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. » Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Eh bien, nous avons exactement cela dans Matthieu, au chapitre 8, versets 23 à 27, déjà. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons !» Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Et au chapitre 14, versets 22 à 34, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et puis il y a encore dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, un autre épisode, verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Toutes les détresses d'Israël ont trouvé leur solution soudaine par la présence de Jésus, et les apôtres ont expérimenté. Alors que eux étaient des pêcheurs avisés, ils étaient habiles à affronter la mer, les tempêtes. C'était pas des... Si moi je vais sur la mer, déjà en étant tout près une fois d'un estuaire, là où on voyait vraiment les vagues, la houle là, qui se manifestait, ça m'impressionnait vraiment beaucoup. Et j'aurais pas voulu me retrouver sur... pourtant c'était pas une tempête, hein, mais rien que là j'aurais pas voulu me retrouver sur la mer. Eh bien, eux, ils étaient habitués, eux, ils maîtrisaient, en fait. Mais dans ce contexte, toute leur habileté était anéantie, dit le psaume 107. Et les disciples, dans leur barque, eh bien, c'est la même chose, leur habileté était anéantie. Ils ne pouvaient plus rien faire, ils ne maîtrisaient pas ni les éléments, ni la barque. Et c'est bien la présence de Jésus qui les a sauvés. Eh bien, les apôtres ont cru de ce fait-là et ils ont exalté le Seigneur. Ils l'ont béni et glorifié, ils se sont prosternés devant lui, même dans cette barque, déjà, en fait, il semble que déjà dans la barque, ils se sont prosternés devant lui. Mais ensuite, ils sont devenus les propagateurs de la bonne nouvelle. Ils ont exalté le Seigneur dans l'assemblée du peuple. Ils ont célébré dans la réunion des anciens d'Israël, comme dit le psaume 107, en fait. Puisque les apôtres ont d'abord rendu témoignage en allant tous les jours au temple. Ils étaient là à glorifier le Seigneur au milieu des Juifs. Et puis ils sont parus, bien sûr, devant les autorités et ils ont rendu gloire au nom de Jésus qui agissait au milieu d'eux. Mais cette célébration, eh bien, c'est celle de Jésus lui-même. Dans le psaume 22, il est écrit, alors que nous savons que le psaume 22 décrit les souffrances de Christ dans toute sa première partie, à partir du verset 23, il y a un changement dans le psaume 22. « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Le Seigneur Jésus, qui s'est retrouvé captif de la mort, s'était totalement confié dans son Père et il a été ressuscité. Et à partir de ce jour, eh bien, il a célébré et il continue à célébrer la gloire du Père au milieu de l'assemblée. C'est son Esprit Saint qui agit en nous et qui nous permet de bénir Dieu de toutes ses délivrances, de son intervention, d'avoir répondu à tous nos besoins et aussi d'avoir pourvu à notre détresse alors que nous étions coupables bien souvent de nos situations mauvaises. Le ministère de Jésus a commencé en Israël pour que soient accomplies en faveur de ce peuple les promesses de Dieu, mais bien sûr que maintenant il concerne tous ceux que l'Éternel veut délivrer sur la terre. Ce psaume 107 a une portée universelle, c'est ainsi qu'il commence. Je reprends la parole exacte. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel qu'il a délivré de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Occident, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. D'ailleurs, c'est pas et du Midi, mais et de la mer. Et il est question dans la dernière partie, la quatrième partie, de ceux qui sont sur la mer. Je n'ai pas remarqué ce détail. D'ailleurs, le psaume 107 fait allusion à des situations vécues par Israël. Cependant, il ne mentionne pas Israël, ni aucun nom d'Israélite, en fait, dans le psaume 107. Ce que faisait abondamment le psaume 106. Le psaume 106 mentionnait Israël, le psaume 107 ne mentionne pas Israël. Preuve qu'il s'agit d'une visée bien plus large et que ce psaume est une préparation pour tous ceux que le Seigneur rachètera parmi les nations. Son message s'adresse à tous les humains. On peut considérer que les rassemblés de tous les pays sont en fait les citoyens de toutes les nations, les membres de tous les peuples qui forment le peuple des rachetés de l'Éternel. D'ailleurs, c'est ce qui est dit au sujet de Jésus. Il devait mourir afin de rassembler en un seul peuple les enfants de Dieu dispersés. Nous étions pécheurs, nous étions coupables, nous étions captifs, Mais Dieu nous a fait miséricorde. Dieu s'est révélé à nous dans son amour. Dieu nous a multipliés. Et sur la face de toute la terre, maintenant, nous le glorifions. Et nous sommes vraiment rassemblés par le Seigneur afin de le bénir, afin de proclamer ses hauts faits. Je crois que qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens, quelque chose qui doit rester vraiment imprimé dans nos cœurs. L'apôtre dit « Ne négligez pas votre rassemblement, comme le font quelques-uns, mais nous devons rester en permanence unis à nous rassembler pour célébrer les œuvres de l'Éternel, et ainsi nous le ferons aussi à l'extérieur, envers les personnes qui ne le connaissent pas encore. Soyons donc attentifs aux bontés de l'Éternel. » Je relève encore plus particulièrement cette parole presque centrale. Il envoya sa parole et il les guérit. Le Seigneur nous a envoyé sa parole. Le Seigneur nous a envoyé Jésus-Christ, la parole vivante, et puis il a laissé les paroles écrites, et ces paroles nous rejoignent aujourd'hui. Et c'est bien sa parole qui peut nous guérir. Aucune autre parole n'a cette autorité et cette puissance pour agir dans nos vies. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Voilà tout ce que le psaume dit des interventions de Dieu en faveur de ceux qui, à cause du péché, expérimentent la détresse. C'est pour ça que dans toute situation de détresse, nous avons un recours. Et le véritable recours, c'est de crier à l'Éternel qui a entendu notre voix, qui a donné Jésus pour nous sauver et qui nous a libérés de toute condamnation, parce que devant lui ne subsiste plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, si nous passons par des détresses parce que nous avons péché, parce que nous n'avons pas été fidèles à sa parole, eh bien, il est toujours temps de revenir, de crier à lui, et ainsi d'expérimenter sa délivrance. Et non seulement cela, il les bénit et ils deviennent très nombreux. À la fin, c'est une foule de tout peuple, de toute race, de toute langue, que personne ne peut compter, qui sera devant le trône de l'agneau et qui louera et glorifiera le Seigneur éternel. Une foule que personne ne peut compter. Très nombreux. Nous devons garder dans notre cœur que nous faisons partie de ce peuple très nombreux, que le Seigneur nous multiplie. D'ailleurs, il y a des informations trompeuses, parce qu'on entend souvent parler de persécution, de l'Église qui ne peut pas s'exprimer, de l'Église qui diminue dans nos pays, etc. Mais inversement, même dans les pays de grande persécution, une Église se développe, le Seigneur appelle, le Seigneur se révèle, le Seigneur constitue des groupes de croyants. Et d'un seul coup, nous apprenons que, en Inde, il y a un mouvement qui, actuellement, a fondé 20 000 églises, je crois, 20 000 églises locales et qui vise les 100 000. En Iran, le Seigneur convertit en grand nombre et les chrétiens commencent à inquiétés justement par leur développement, etc., etc. Même dans les contextes où il y a les guerres, l'Église se développe et ils sont de plus en plus nombreux à appartenir au Seigneur et à le glorifier sur la terre. Les informations que le monde peut nous produire, peut produire sont, on peut dire, superficielles. Et nous pouvons nous attendre à ce que le Seigneur continue à réunir ses enfants sur la face de toute la terre. Et que nous en faisons partie, ici, là, aujourd'hui, dans cette assemblée, à Lambersart, nous faisons partie de cet immense peuple que le Seigneur appelle à sa liberté, à aller trouver, se préparer pour habiter dans la ville qu'il a préparée pour nous. Et je vis descendre du ciel la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, parée pour son époux. Voilà, cette ville, elle va être manifestée et y habiteront tous les rachetés du Seigneur. Amen.